BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Oui, je sais, les taxis sont en grève et on va encore se coucher comme à chaque fois que quelqu'un manifeste. Mais moi, j'ai trois bonnes nouvelles pour vous. C'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission exceptionnelle. Exceptionnelle parce qu'on va se focaliser sur tous les événements qui ont marqué cette semaine. L'économie, les marchés et l'argent. Au sommaire aujourd'hui, le mot de la semaine, ça va être dette. On a parlé que de ça d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe avec les droits de douane? On n'en parle plus. C'était la panique, tous les plateaux, 24 heures sur 24. Oh là là, la guerre commerciale. Depuis une semaine, on n'en parle plus. Alors maintenant, c'est la dette américaine. C'est le sujet du jour. Il faut vraiment, c'est la fast fashion en matière d'économie. La question macro, allez, on a eu Choose France. No comment. La France a-t-elle tout pour attirer les investissements étrangers? On va essayer d'y répondre sans faire ni de French bashing, ni de chauvinisme. Le chiffre de la semaine, évidemment, c'est 110 000 dollars, le nouveau record du Bitcoin. Et quand il valait 1300 dollars, je me posais la question de savoir s'il fallait l'acheter. Et je critiquais même les gens qui disaient qu'il fallait l'acheter. En deuxième partie de l'émission, où va la bourse dans ce contexte? Elle va plutôt pas mal. Alors qu'on nous explique que c'est un climat d'incertitude, qu'on comprend rien à ce qui se passe. Bon, ça n'a pas l'air de gêner beaucoup les investisseurs en bourse. Question d'argent, évidemment, l'allocation d'actifs dans cette tempête. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les taux d'intérêt sont un peu remontés. Est-ce qu'il faut en profiter? Est-ce qu'il faut au contraire tout miser sur les actions? On voit que le livret A s'est totalement effondré. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce qu'on critique souvent les Français et on dit qu'ils ne savent pas gérer leur argent. La preuve, ils sortent du livret A pour aller sur des placements mieux rémunérés. Quel placement privilégié? Le top ou le flop de la semaine? Je suis en grande forme aujourd'hui. Le top 3 des gérants et les actions à acheter ou vendre. Mais pour une émission exceptionnelle. Ah, j'ai un beau plateau là. Il faut des invités, comme chaque semaine. Il faut des invités exceptionnels. J'ai donc le plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. Dans un monde de brutes dirigé par des irresponsables, elle prône avec courage l'investissement responsable et je n'aimerais pas être à sa place. Léa Dunant-Châtelet, franchement, je vous admire. Je ne sais pas comment vous faites. Vous êtes directrice de l'investissement responsable chez DNCA Finance. On peut encore investir de façon responsable aujourd'hui.
Ah ouais, vous connaissez l'adage, hein, c'est quand le sang coule dans les rues qu'on investit le mieux.
Hein. Ouais, mais il coule pas tellement en fait, le sang.
Ah, ça dépend pour qui, en tout cas pour moi un peu quand même. Ouais. Hein, sur les thèmes du développement durable, on est bien malmené là.
Bon, les éoliennes, on n'a plus rien à foutre, non?
Non, c'est terminé.
Ok. Il sait tout faire, l'économie bien sûr, mais aussi le culturisme ou l'élevage de chats en passant par l'innovation capillaire. Christopher Dembic, vous êtes conseiller à temps partiel, puisqu'il y a tout le reste, hein, en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. En tout cas, ce qu'on remarque depuis que vous êtes chez Pictet, c'est que vous ne faites plus du tout d'innovation capillaire.
Non, effectivement.
Parce qu'on a quand même, les gens qui vous connaissent pas, ils savent pas qu'on a tout eu. On a eu la crête, on a eu le petit bouc. Bon, alors, j'ai une question à poser. Oui. Est-ce que Pictet AM accepte le t-shirt?
C'est une bonne question, on en parlera lundi.
Il dirige une des plus belles réussites de la gestion en France, notre spécialiste des coups de gueule, et il est déjà très énervé. Je vais juste dire bonjour et déjà il était énervé. Sébastien Lalvé, vous êtes directeur général de Montpensier Arbevel. Comment ça va chez Montpensier Arbevel?
Magnifiquement. Ah oui.
Ah, super, c'est une bonne nouvelle. Les perfs sont bonnes?
Oui.
Ouais, bon début d'année?
Très bon.
Il réussit l'exploit de plus mauvaise foi que moi, mais il allie compétence et sympathie, c'est l'incontournable Emmanuel Le Chypre. Emmanuel, je suis content de te retrouver.
Moi de même, mon cher Marc.
Le mot de la semaine, c'est dette. On ne parle plus des droits de douane. Alors d'ailleurs, je vais demander aux gens, aux invités, pourquoi on ne parle plus des droits de douane. Ça y est, c'est fini. Alors que bon, il n'y a eu qu'un deal avec la Grande-Bretagne, une annonce d'accord à terme avec la Chine. Bon, on a zappé sur un autre sujet. Alors le sujet du jour, on vous dit, c'est du Zara, la fast fashion, c'est la dette américaine. Alors ça y est, plus tout le monde parle que de ça. Avec le budget Trump qui devrait générer 2700 milliards de déficit supplémentaire sur 10 ans, c'est la panique. Il va y avoir un crack obligataire, les taux d'intérêt à long terme remontent, ça va être la catastrophe pour l'économie américaine et la catastrophe pour le monde entier. Christopher Dembic, juste une question déjà de pure curiosité. Pourquoi le sujet des droits de douane a évacué totalement de tous les médias?
Parce qu'on s'est rendu compte que finalement, ce qui avait été annoncé début avril, le fameux jour de la libération et la réalité, c'est qu'on met de l'eau dans son vin. Là, on voit très nettement que Trump veut pas aller en frontal. Il y a quelques accords commerciaux qui sont indéniablement imparfaits, mais qui ont été annoncés. Et aujourd'hui, on est dans une période où il y a beaucoup de discussions budgétaires. Donc aux États-Unis, mais vous avez aussi des tensions au Japon, parce qu'il y a des élections au mois de juillet. Donc il y a un contexte qui est aussi favorable pour s'intéresser à la question de la dette. Alors bien sûr, le vrai point focus est aux États-Unis, les discussions qui ont lieu, qui devraient s'achever.
Qu'est-ce qui se passe juste, parce que tout le monde ne suit pas au jour le jour, nous on en parle tous les jours, mais qu'est-ce qui se passe exactement?
On discute le budget pour 2026, on a un calendrier qui fait qu'on a des discussions qui vont aller au moins jusqu'à tout début juillet, c'est ce qui est prévu. Parmi les discussions...
Il a été adopté quand même ce budget?
Alors, pas complètement, vous avez la signature du président début juillet qui doit intervenir, et vous avez encore des éléments de discussion sur certaines baisses de dépenses.
Il doit passer au Sénat, mais il est passé déjà, il a été approuvé à la Chambre des représentants, en un temps record quand même.
Et il peut être encore modifié. Ouais. Le problème, c'est que vous avez deux éléments qui s'ajoutent. Sur les discussions, et c'est des deux côtés, républicains et démocrates, on est dans une course à l'endettement. C'est-à-dire, on va avoir des baisses d'impôts qui sont très importantes. En face, on n'a pas suffisamment de baisses des dépenses. Finalement, ce qui avait été promis par le Doge, notamment, n'a pas été mis en place. Et en parallèle, vous avez depuis 2019, donc avant Covid quand même, des émissions obligataires de la part des Américains qui ont été de fonction...
Émissions obligataires, ça veut dire l'État qui, pour financer son déficit et pour refinancer sa dette, emprunte sur les marchés.
Sur les marchés, avec une spécificité, c'est qu'il a décidé d'emprunter à du court terme. Quand on emprunte sur du court terme, c'est-à-dire que vous allez vous refinancer plus régulièrement et donc les taux pour vous réemprunter peuvent potentiellement augmenter. Ça crée un peu un électrochoc sur le marché obligataire. On a eu les taux longs, donc 10, 30 ans aux États-Unis, qui ont très fortement augmenté. Sur du 30 ans, on arrivait au niveau de la crise financière de 2007. Et le point qui est systématique, c'est quand c'est un problème sur le marché obligataire américain, ça se répercute ailleurs. On l'a vu au Royaume-Uni, on l'a vu au Japon aussi, où on a une flambée des taux longs. On n'est pas face à un krach obligataire. Il y a un problème de volatilité. On voit que les investisseurs sont très fébriles, mais ils sont fébriles depuis déjà quelques semaines. Mais c'est un point d'attention à observer.
C'est un vrai sujet au point d'en faire une sorte d'hystérie collective. Alors, il y a le Wall Street Journal qui a cité une phrase que j'aime beaucoup. Il a dit les marchés obligataires, c'est comme les toilettes. Tant que ça marche, on s'en occupe pas.
C'est un peu ça. Vous disiez en introduction, finalement, sur les actions, ça se porte assez bien.
Et
on regarde normalement, quand on a un sujet, les taux effectivement se tendent sur les taux longs obligataires, et derrière cela, les actions trébuchent. La réalité, c'est que depuis un mois, on a les taux longs qui augmentent. Les actions, notamment le Nasdaq, qui a priori assez réceptif à cela, continuent d'augmenter. Donc c'est vrai que c'est un peu un non-sujet.
Il en baisse depuis le début de l'année, quand même.
Ah oui, ça. Oui,
en revanche, il en baisse depuis le début de l'année.
Après des années de hausse.
Le dollar a baissé de 10% cette année. Et si on regarde, si on fait une analyse un peu différente de tout ça, les républicains sont fondamentalement moins dépensiers que les démocrates. Donc le seul moyen qu'il a de faire passer son paquet fiscal de baisse d'impôts, c'était de faire croire à ses élus qu'il allait faire des économies via le Doge raté, parce qu'il n'en fera pas autant que prévu, et via les tarifs douaniers qu'il a annoncés avant pour ces raisons-là. Sauf que sur les tarifs douaniers, c'est un futur flop, parce qu'il n'aura certainement pas l'argent qu'il estime gagner via l'augmentation des tarifs. Donc la réalité, c'est que les économistes sont en train de dire « On nous avait vendu un déficit américain qui allait baisser, il ne va pas baisser, il va augmenter. » Et moi, ce qui me gêne dans tout ça, c'est que le marché obligataire, c'est le marché le plus liquide du monde. Donc expliquer que ce marché est un marché qu'on peut manipuler via la presse, en fait c'est pas vrai, c'est juste le marché le plus liquide du monde. Donc quand il vous dit, quand le 10 ans US passe de 3,5 à 5, il se passe quelque chose qui est massif. Quand le dollar baisse...
Il n'est pas passé à 5 quand même, un peu d'exagération.
Il a touché, il est revenu à 4,50, mais il l'a touché. Et quand le dollar perd quasiment 10% sur l'année, ce qui est aussi un marché extraordinairement liquide, il se passe un truc, à mon avis, qui va au-delà de l'anti-trumpisme.
Il faut arrêter Emmanuel. De m'inviter avec Sébastien parce que je suis tout le temps d'accord avec lui.
Emmanuel, j'aurais pas dû vous mettre à côté.
Non.
Alors, il y a un problème d'abord. Est-ce qu'il y a un vrai problème?
Oui, je suis d'accord. C'est pour ça que je suis d'accord. En fait, bon, d'abord, le marché de la dette américaine et les taux associés, c'est quand même le nord magnétique des marchés financiers mondiaux. Et c'est vrai qu'il y a une espèce d'épidermie autour de tout ce qui se passe sur la dette américaine qui est important. Est-ce que vous vous rappelez de ce débat qui était hallucinant à la fin des années 90 quand on avait peur qu'il n'y ait plus d'émissions de dette américaine? Et donc c'était la panique, on disait mais si les Américains n'émettent plus de dette, comment vont fonctionner les marchés mondiaux, etc. Là, moi je crois qu'effectivement il se passe des choses assez structurelles. D'abord la perte du triple A par une agence de notation pour un pays comme les États-Unis.
Je rappelle que c'était la dernière agence qui avait encore un triple A, les autres l'avaient déjà dégradé.
Exactement,
depuis 18 mois. Donc c'est pas, je veux dire, c'est un alignement.
Oui, mais pour le coup,
on a l'impression
que le coup de projecteur sur la dette américaine, c'est quand même important. Deux, effectivement, moi je pense qu'il Donald Trump a créé beaucoup de doutes finalement dans l'opinion des investisseurs mondiaux sur qu'est-ce que je veux faire du dollar, sur est-ce que les États-Unis doivent être un pays qui doit retrouver plus d'indépendance financière ou pas, etc. Donc ça, oui, ça crée de l'incertitude. Et puis il y a effectivement cette idée que, contrairement à ce qu'on a connu dans le passé, les déficits budgétaires américains ne reviendront pas aussi facilement, ne se dissiperont pas aussi facilement.
Donc est-ce qu'il y a un danger réel, ou est-ce qu'il y a une hystérie collective?
Non, moi je pense qu'il y a un danger réel, et qui est à peu près le même que celui qui nous guette d'ailleurs en Europe.
Mais oui, sauf que nous, on est...
On a
le parapluie allemand.
C'est quand même un danger de taux d'intérêt quand même structurellement un peu plus élevé. Et donc, moi, je pense qu'il s'est passé quelque chose qui n'est pas anodin.
Léa, c'est une problématique de temporalité, ce que tu disais. C'est-à-dire qu'en fait, les mesures que Trump est en train de mettre en place sont des mesures dont il espère effectivement des rendements, en fait, et qui ne viendront pas dans les prochains mois. Et je crois qu'un peu basiquement, parce que ça donne du flou hein, quand même, toute cette approche. On a parlé de la dette et finalement, pourquoi toute la partie de guerre commerciale, on n'en parle plus. Si, on en parle, hein, parce que le verre s'est beaucoup vidé, mais le verre est quand même plus rempli que précédemment.
On n'en parle plus beaucoup.
Ben oui, mais sauf les entreprises.
Quand on négocie, qu'il y a rien de nouveau, on n'en parle jamais.
Il y a deux semaines, on négociait, c'était l'hystérie.
Mais là, on ne négocie pas.
On a zappé d'un sujet à l'autre, mais c'est pas grave.
Oui, on a zappé d'un sujet à l'autre. Je pense que les
seuls
indicateurs.
Vous connaissez les journalistes.
Oui.
Ouais, c'est pas faux.
Le seul indicateur qu'il va falloir regarder de près maintenant, puisqu'on ne sait plus très bien ce qu'il va falloir regarder, c'est le taux de chômage. Aux États-Unis, c'est l'indicateur clé pour comprendre les marchés actions.
J'ai juste deux éléments.
Trois même.
Si vous voulez. La réserve fédérale américaine, faut pas oublier qu'elle continue d'intervenir. Alors effectivement, on a les taux qui augmentent, mais pas tant que cela, parce que sur les dernières semaines, la Fed est intervenue en catimini. 50 milliards de rachats de bons du Trésor.
C'est beaucoup?
C'est pas tant que cela, hein. C'est pas énorme, donc ça veut dire aussi qu'il y avait pas une nécessité d'intervenir très massivement. Et le deuxième point, c'est que il y a beaucoup de rumeurs sur les marchés, notamment une des grosses rumeurs, c'est de dire finalement la Chine très très massivement sur les dernières semaines, elle s'est délestée de bons du Trésor. Écoutez, une date à retenir, le 30 mai, on aura l'évolution des actifs de titres, notamment bons du Trésor détenus par la Banque centrale chinoise. On verra si effectivement en mars ou en avril ça
évolue. Et rappelons quand même ce chiffre, c'est que la Chine a à peine 2% de la dette américaine, contrairement à tous les fantasmes, et que la Grande-Bretagne est passée devant la Chine en termes de détention de la dette. Donc ce fantasme que les Chinois se serviraient de ça pour... Donc vous dites à gauche, là, à ma gauche, là, danger.
Ouais.
Danger parce que dollar, parce que c'est non. pas simplement...
C'est pas danger, c'est évolution. Et puis c'est pas les mêmes marchés financiers. C'est pas la même économie avec des 10 ans américains à 4,5, 4,5. C'est pas les mêmes politiques de taux d'intérêt. C'est pas la même baisse de taux prévue. C'est tout ce sujet-là, ce scénario qui tiendra pas. Sur le chômage, la politique anti-immigration qui là est forte va faire que même si ça va moins bien, le taux de chômage va pas forcément augmenter autant que ça parce qu'il y a un problème potentiellement de main-d'œuvre, hein, vu les pourcentages là-bas. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre la politique anti-immigration en même temps que ça. Donc, et puis sur les entreprises, par rapport aux droits de douane, moi j'ai fait une conférence la semaine dernière où j'ai rencontré pas mal de patrons et de patronnes. Le seul sujet, c'est les droits de douane.
Non, ça, comment, je suis d'accord, je parlais pas des entreprises, je parlais de l'hystérie.
C'est pas dans les chiffres, hein, ça n'arrivera dans les chiffres que dans les mois qui viennent, après l'été.
Hein. Eh ben, très bonne transition, puisque vous avez rencontré des patrons, on va vous poser la question. Est-ce que la France, c'est la question macro de la semaine, a-t-elle tout pour attirer les capitaux étrangers? On a eu le droit au cirque habituel avec Choose France, Versailles, on a ciré les pompes des gars qui ont fait des promesses d'investir 10 milliards qu'ils mettront jamais, on est devenus les champions de l'événementiel, mais au-delà de ces paillettes, sans faire de French bashing ni de chauvinisme, Emmanuel, est-ce que la France est attractif pour les investisseurs étrangers en ne prenant pas le tropisme français, c'est-à-dire en se disant, si je suis investisseur américain, j'ai le monde entier devant moi, des Philippines au Vietnam, en passant par d'autres pays, est-ce que j'ai intérêt à m'emmerder, excusez-moi l'expression, pour un pays compliqué?
Alors, le problème, il est assez simple, c'est-à-dire que si vous raisonnez à l'échelle de tous ces grands investisseurs internationaux, la France, c'est à peu près 5% du PIB mondial, donc ils vont consacrer à peu près 5% de leur temps à regarder ce qui se passe en France. Alors, moi, il y a un truc qui m'a frappé, puisqu'on y a été, on a passé la journée à Choose France, etc. Alors, tout le monde se moque, tout le monde rigole, etc. Moi, j'ai quand même remarqué trois choses. La première, c'est que ça vous déplaise ou non, le soft power, ça veut dire quelque chose. Alors, j'ai bien aimé votre billet de la semaine dernière sur la France qui organise de l'événementiel. Mais pour le coup, quand on sait le faire, pourquoi s'en priver? Et donc, moi, je peux vous dire que j'ai croisé plein de grands patrons. L'effet Versailles, ça marche. Il y a un effet waouh. L'effet se rencontrer avec le gouvernement, etc. C'est simple. Vous savez, on se posait une question, par exemple, c'était « Oh là là, l'instabilité politique en France ». Non, parce qu'en fait, eux, ce qu'ils voient, c'est une sorte de guichet unique Macron. C'est-à-dire qu'en gros, tous ces grands patrons, ils savent qu'ils peuvent appeler Emmanuel Macron. Pour eux, tant qu'il y a Emmanuel Macron, en fait, c'est une espèce de guichet unique pour l'investissement en France. Donc, la majorité, pas de majorité, tout ça, ils s'en foutent à peu près. Et puis, il y a un troisième message quand même de Chose France que je trouve intéressant, c'est que c'est aussi un message pour les patrons français, les petits patrons français. Il y a plein, regardez, il y a plein de grandes boîtes qui viennent chez nous, partez pas, quoi, voyez, etc. Donc, je dis pas
non, mais
que...
mais attendez, effectivement, les petits patrons de boîtes françaises et Sébastien va vous en parler, ils en ont rien à foutre de Chose France.
Non, mais
ce qu'ils voient, c'est que ça fait un an qu'ils n'arrivent pas à bosser, qu'il y a une incertitude totale. Ils s'en foutent de Trump.
Même plus.
Ils s'en foutent pas des droits de douane, mais ils s'en foutent de Trump. Et par contre, ils se foutent complètement de ce cirque absolu. Et ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur dise, voilà, il y a un peu de stabilité politique.
Non, mais là, vous me parliez des investisseurs étrangers. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font qu'ils viennent
non,
ou pas?
Non, mais là, vous me parliez des petites entreprises
et après,
françaises.
Par contre, et après,
numéro 3.
Et après, oui, mais si vous voulez, ça renvoie aussi une image positive. Et après, effectivement, bah, l'attractivité de la France, je vais rien vous apprendre. D'abord, un, il y en a beaucoup qui viennent en France pour capter le marché français. Et c'est un tiers à peu près des investissements. Quand vous disiez, il y en a plein qui font des promesses et qui les tiennent pas, c'est pas vrai. Parce qu'il y a sur les 150 projets qu'il y a eu au cours des dernières années,
il y en a 10.
Ouais, il y en a peut-être une dizaine qui s'est pas réalisé.
Il y en a 10 qui sont réalisés.
Après, on sait qu'ils viennent pour la recherche, pour tout un tas de
pour les subventions
après,
pour les subventions.
Oui, pour le crédit impôt recherche par exemple.
Entre autres.
On sait que ce qui fait obstacle, c'est le coût du travail, les règlements, la réglementation compliquée, la fiscalité, etc. Donc c'est pas parfait. Mais je veux dire, quand vous arbitrez, de toute façon, la terre promise de l'investissement idéal avec toutes les qualités dont vous pouvez rêver, ça n'existe nulle part. Donc il faut arbitrer et il se trouve qu'il y a certains paramètres où la France n'est pas si mal placée.
Ça n'existe nulle part. Et pourquoi vous dites ça?
Non, parce qu'il n'y a pas.
Bah, aux États-Unis, c'est quand même une
terre. Mais non, aux États-Unis, c'est une tannée, il y a aussi plein de complications. Enfin, je veux dire, il faut arrêter de croire que les États-Unis, c'est un pays homogène. Vous avez des réglementations qui sont différentes dans tous les États, etc. Donc c'est pas non plus. Enfin, je veux dire, voilà. Okay. Mais tout dépend de ce que vous cherchez comme objectif. Est-ce que vous voulez vous implanter sur un marché? Est-ce que vous considérez que c'est un endroit stratégique, pas géographiquement, parce que vous voulez rayonner, etc. Chacun a ses problématiques. Et dans certains cas, la France correspond à ce qu'attendent certains investisseurs, ni plus ni moins.
Christopher,
faut mettre
partager ce point de vue.
Non, je suis plus mesuré. Faut mettre en face finalement ce qui est présenté en termes d'investissement. Ouais. On est, alors ça dépendra des calculs, mais le gouvernement évoque 40 milliards. En face, vous avez quand même que 13 000 emplois, donc on s'en félicite, mais ça reste extrêmement marginal. Et les entreprises étrangères, elles viennent, et je suis complètement d'accord sur ça, parce qu'on a la meilleure niche fiscale du monde avec le crédit impôt recherche. Ça fait des années qu'on doit le réformer pour les effets domaine, on ne le fait pas. En revanche, regardons ce qui est du côté des entreprises françaises. Et depuis plus d'un an, si vous regardez depuis mi-2023, vous avez une contraction des dépenses en capital des entreprises françaises. Et c'est ça qui devrait inquiéter le gouvernement. C'est-à-dire, c'est très bien de faire de la communication, de faire venir des grandes entreprises, et c'est excellent. Il fallait le faire après Hollande notamment. Mais aujourd'hui, il faudrait peut-être regarder l'écosystème français, ce qu'ont besoin les entreprises françaises. Et quand on voit les chiffres, c'est quand même très négatif. Il y a des problèmes de foncier, vous avez des problèmes de réglementation, de compétences, vous avez un manque d'ingénieurs par exemple, qui est extrêmement important, ça a encore été communiqué. Donc, c'est bien de faire l'extérieur et on sait très bien le faire. Mais en revanche, à un certain stade, il faut s'intéresser aussi au tissu économique français.
Moi, je suis complètement en ligne avec Christopher. Je veux donner des chiffres quand même pour concrètement expliquer de quoi on parle. Parce que effectivement, je suis d'accord avec vous. Les projets n'aboutissent pas. Il y en a eu 180. Il n'y en a même pas 50. Sur les 8 années, on est à la 8e édition, il n'y en a même pas 50 qui ont fleuri. Parmi les 50, il y en a 15 à peine qui sont des nouvelles entreprises. Les emplois, j'en parle même pas. Et surtout, rappelons que c'est 7% à peine des investissements en France. C'est rien du tout.
Mais tout ça est vrai. Encore une fois, est-ce que pour autant considérer qu'une journée à Versailles,
sympa.
Etc. Bon voilà,
ils auraient pu faire venir Céline Dion, ça aurait été plus sympa.
Non mais effectivement, et alors quand on regarde vraiment la cartographie de ce qui a été décidé cette année, c'est quoi? C'est de la logistique pour une raison, parce que la France est au milieu de l'Europe et les patrons qui en ont parlé, parmi celui qui a fait la plus grosse annonce, c'est la seule raison. Et c'est les industries qui ont besoin de se renforcer sur, en gros, de l'automatisation et de l'intelligence artificielle qui consomment de l'énergie. Et là, je reviens au sujet de l'emploi, parce que l'énergie est pas chère. et qu'en plus il y aura des chocs énergétiques.
Bon, c'est pas grave, c'est pas une mauvaise raison.
Non, c'est pas une mauvaise raison.
Si ça crée de l'emploi,
mais
c'est pas grave.
C'est pas l'emploi et c'est certainement pas les facilités réglementaires. Et donc 18 mois pour lancer un projet en France, c'est 3 fois plus que le reste de l'Europe. Voilà. Et une fois qu'on a dit ça.
Que vous disent les patrons, Sébastien Lalvé, vous dites que vous rencontrez régulièrement les patrons, qu'en ce moment ils sont très inquiets par les droits de douane, ils sont pas du tout inquiets par le fait qu'en France on soit à l'arrêt et on a un immobilisme total.
Juste accessoirement, il y a pas mal de patrons qui ont expliqué qu'ils ne feraient plus jamais d'investissement dans les villes dirigées par les écolos. Hein. Et c'est une évidence parce qu'il y a des problèmes partout, notamment au niveau du foncier. Donc la seule chose par rapport à ça, c'est qu'avant Macron, on a eu un président qui expliquait, qui a fait fuir toute l'Europe entière et le monde entier, qui expliquait que pour plein de trucs. Donc là, le soft power, je suis d'accord. Sur une moitié de mandat, ouais, exactement. Le soft power, c'est important. Donc d'accord, c'est de la com, mais c'est une com un peu positive et pro-business. Donc si derrière, effectivement, ça ne suit pas, et on sait que ça ne suit pas pour toutes ces raisons-là, mais il y a au moins un
qui n'est
pas avant.
Au-delà de ça, parlez-nous du moral des patrons de boîte.
Mais il n'est pas bon.
Pourquoi ?
Mais parce qu'ils y voient rien. Ils y voient rien parce qu'il y a un gars à la Maison Blanche qui a décidé qu'il allait tout changer. Mais ce qui est fondamentalement intéressant, c'est que je parlais avec SMCP, donc Sandre Maje, boîte qui fait des habits du textile, donc qui fabrique au Vietnam, en Chine, ainsi de suite. Elle me dit mais nous, on va voir comment on fait. Pour l'instant, on ne sait pas. Et le fait qu'on ne sache pas, ça fait que tous les capex dans le monde entier, aujourd'hui, ils sont en hold. Hein.
Donc, c'est quoi ?
Les investissements. Ça veut dire que tous les investissements, ils sont juste, on ne sait pas où on va les faire et quand on les fera. Donc, pour l'économie, c'est mortifère. Donc, on est dans une période d'attente, et ça, c'est mortifère et c'est politique. Donc, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied tout seul. Mais ça est encore pire pour les Américains, parce que la part de marché, enfin, la part aux États-Unis des boîtes de textiles américaines, elle est bien supérieure. Et qu'est-ce qu'ils ont ? Et ils ont exactement la même chaîne de fabrication que les Européens. Donc, les boîtes qui vont être le plus impactées par les droits de douane, au final, ça va être les boîtes américaines, notamment.
Emmanuel ?
Ah, moi, je pense que le bordel Trump, il est en train de retomber. Que le pic de bordel est derrière nous. C'est comme quand vous jetez un pavé dans la mare, vous avez la grosse onde de choc. Et c'est parce qu'on voit quoi ? On voit que finalement, dans tous les cocotiers qu'il a secoués, sur tous les sujets, il est quand même quelque part ramené à la raison par certaines forces de rappel, et notamment par les marchés. Toutes les rodomontades sur les droits de douane, les chiffres hallucinants annoncés, ça va se terminer par des chiffres extrêmement raisonnables.
Mais c'est quand même plus qu'avant.
Oui, d'accord. Mais les 10%, ça se gère.
Ah non.
Et non
mais si,
non.
Ça se gère.
C'est ça que les entreprises.
Bien sûr que ça se gère. Mais bien sûr que
si, ça se gère.
C'est là où je suis.
Ça se gère. Non, mais et ça va pas révolutionner. Et voilà, sur la dette, c'est pareil. On voit bien qu'il y a des forces de rappel. Sur les relations internationales, vous voyez bien qu'il ne sert à rien. Vous voyez bien que tout ce qu'il a fait ne sert strictement à rien. Prenez Israël, prenez la guerre en Ukraine. Tout ce qu'il fait, c'est de la gesticulation et tout le monde s'en rend compte. Et en plus, autour de lui, manifestement, disons que le camp des raisonnables a repris un peu de poil de la bête par rapport au camp des hurluberlus. Donc, franchement, il est en train de revenir dans une forme de... Alors, il va encore faire bouger des lignes. Mais ce que je veux dire,
en attendant, il fait passer son budget.
C'est que... Et il va faire passer son budget.
À une voix.
Oui,
un budget qui n'est pas un budget.
Non, mais là, ce que je veux dire, c'est que on retombe, là, sur cette affaire de budget, on retombe dans ce qui est une forme de presque de normalité, vous voyez, de ce qu'est la discussion américaine, même si le budget est ambitieux, d'accord. Mais voilà, mais on n'est pas dans... On fait exploser toutes les lignes directrices de l'économie mondiale. Il a essayé de le faire, ça marche pas trop.
C'est comme la boule de neige là qu'on secoue.
Ouais.
Pour l'instant, il y a toutes les paillettes, sauf que.
Mais les paillettes, elles sont déjà en train de retomber.
Elles retombent, sauf que ça a quand même bouleversé un paquet de choses. Et moi, on se retrouve, je pense, en tant qu'investisseur, comme la période post-Covid. Tous les catalystes et tous les éléments qui constituent l'économie, on ne sait pas dans quel sens ils vont partir. Et on sait que sur les 18 prochains mois, si, il y a des effets par ricochet de ces tarifs qui vont arriver et de ces mesures. Regardez ce qui se passe dans les universités, dans la recherche médicale, etc. Tout ça, c'est des effets à beaucoup plus long terme. Et derrière, effectivement, on a des entreprises qui nous disent, moi, fort de ça, je ne sais pas où les taux de change vont aller, je ne sais pas à quelle sauce je vais être mangé, ni comment mes fournisseurs vont répercuter certaines hausses de... Donc j'arrête de donner de la visibilité.
Léa, est-ce que tu penses que le poids des États-Unis dans le futur va ressortir grandi ou amoindri par ce qui se passe en ce moment ?
Alors ça, c'est une vraie question. Eh ben, je ne sais pas. Je ne sais pas y répondre parce que je pense qu'il y a des éléments de cette stratégie qui les font changer de paradigme et qui, effectivement, plutôt à moyen long terme, peuvent être positif pour que les États-Unis aient finalement à nouveau une place de leader indépendant. C'est ce qu'ils cherchent à faire. À court terme, c'est...
Vous avez d'autres questions à vous poser entre vous? Parce que dans ce cas, je peux partir.
Mais c'est marrant parce que moi, je fais...
Je ne sers à rien, en fait.
Moi, je fais plutôt la démarche inverse. C'est-à-dire que, rappelez-vous, on en a souvent parlé.
Il reste 10 secondes.
Ouais, on en a souvent parlé. Moi, j'avais dit, l'Amérique, c'est l'éternel pays émergent, ouais. Celui qui a ouais. tout, l'énergie, les cerveaux, voilà.
C'est fini.
Etc. Et voilà. Et là, finalement, il a quand même écorné pas mal ça. Donc, moi, je suis plutôt sur le chemin inverse. J'étais très confiant et je me dis, bah non, finalement, les États-Unis.
Allez, on se retrouve en deuxième partie de l'émission. On va parler de la bourse, on va parler des placements, on va parler du top 3. Vous verrez qu'il y a une surprise. À tout de suite.
BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Et on se retrouve en deuxième partie de l'émission après une première partie très chaude avec Emmanuel Lechip, dit joyeux, avec Sébastien Lalvé, dit grincheux, avec Christopher Demblig, dit prof, et Léa Dunant-Châtelet. On a deviné qui vous étiez Blanchette. Et on se retrouve pour parler d'un sujet dont on nous reproche qu'on n'en parle pas assez, c'est le Bitcoin. Bitcoin, 110 000 dollars. C'est quand même spectaculaire. Alors, je tourne vers vous, Sébastien Lalvé, parce que ça fait combien d'années qu'on se connaît ? Une quinzaine d'années ? Que vous me pompez avec le blockchain, la blockchain, dès le début, et avec le Bitcoin. Et donc, vous avez raison, et donc je me tourne vers vous et je me tais.
On a lancé, avec Simon Poncervel, un fonds sur la blockchain d'action bénéficiant du développement de la blockchain. Donc, on y croit, c'est une technologie auquel on croit profondément. Le Bitcoin, qui soit 110 000, c'est anecdotique. De toute façon, le Bitcoin est devenu un produit financier. Il y a des trackers, des ETF, Bitcoin. C'est devenu un produit financier. Les marchés financiers en ce moment montent. Donc, vous pouvez acheter du Bitcoin avec un x4 ou x5 et ainsi de suite. Il y a même des options. Donc, les marchés montent.
Mais déjà, ça intéresse les gens qui nous regardent. Vous pensez que ça va continuer à monter?
Je suis incapable de donner un prix au Bitcoin. Okay. Donc, tous ceux qui vous donnent un prix au Bitcoin sont des charlatans.
Okay.
Comme ça, au moins, c'est clair.
Ça se dit.
Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la blockchain. Ce qui m'intéresse, c'est l'utilisation. C'est éventuellement les tokens. C'est ces sujets-là. Par contre, les vrais sujets pour les financiers, c'est tokenisation, c'est stablecoin. Donc, c'est toute une finance qui est en train de se mettre en place autour de la blockchain qui, au début, était réservé à des hurluberlus, la finance décentralisée, tout ça, ça n'intéressait pas grand monde, sauf que quand vous avez JP Morgan, quand vous avez Goldman, quand vous avez toutes les banques américaines... Toute la famille Trump, oui.
Même ça, Mélania qui a son...
On pourra en parler des 500 millions de profits perso faits par Trump avec son Trumpcoin, et le fait qu'il invite les 200 plus gros porteurs de Trumpcoin à la Maison-Blanche. Petit conflit d'intérêts, mais il n'y en a pas. Non, c'est ce qui est intéressant, c'est toute ce qu'on va développer avec la blockchain au niveau financier. Je crois que c'est Robinhood qui a dit qu'ils allaient, donc une plateforme de distribution, qui a dit qu'ils allaient utiliser la blockchain pour vendre des actifs américains en Europe. Donc la finance mondiale est en train d'adopter, pas européenne. Hein,
quel est l'intérêt, Sébastien?
Les coûts.
Donc, mais en gros, expliquer le mécanisme. C'est-à-dire que ça permet de court-circuiter...
Les banques. Et tout le système financier traditionnel. Voilà. Donc, moins de coûts, plus efficace et innovant. Et les banques qui disaient au début, va des rétros, j'en veux pas, elles sont obligées d'adopter le mouvement parce que ça se fera sans eux. Quand vous avez Goldman Sachs qui est en train de créer une division spécialisée sur ces sujets-là, c'est pas des philanthropes. Hein. Et quand vous avez le niveau d'intelligence des gens qui aujourd'hui vont dans cette industrie, vous dites que c'est pas n'importe quoi.
Christopher Demblig, oui. Vous êtes conseiller en stratégie d'investissement chez PICTM. Mm-hmm. Est-ce que vous conseillez l'investissement dans les cryptos?
Non, pas du tout.
Pourquoi?
C'est pas partie de notre spectre. On considère que par rapport à notre clientèle, c'est beaucoup trop risqué. C'est une poche qui reste très volatile. On peut aussi, alors c'est pas vraiment l'argument de poids, mais il y a aussi un problématique en termes de consommation énergétique. Et
c'est plus vrai. Hein.
Ah si, vous avez encore des dernières études qui montrent que c'est encore extrêmement important, même si ça a baissé. Et l'autre point, c'est effectivement comment prévoir l'évolution du Bitcoin. À un certain stade, c'était corrélé avec l'évolution du taux obligataire américain. On se rend compte que depuis un mois, mois, c'est plus du tout le cas. En revanche, c'est toujours corrélé positivement avec le Nasdaq. Donc, c'est très, très dur de prévoir et d'intégrer ça dans un portefeuille.
Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut l'éviter? C'est-à-dire que vous avez quand même, moi, j'ai des gens qui m'en parlent tous les
jours. On n'évite pas la question. Ça, c'est sûr et certain.
Mais est-ce qu'on peut éviter le fait? Est-ce qu'on peut dire, voilà, cet actif-là, pour des raisons, parce que je comprends pas, c'est ce que je fais, on n'en fait pas. Mais est-ce que c'est possible, quoi? C'est devenu incontournable, quoi, pour certains.
Oui, mais c'est
déjà pour toute une génération d'investisseurs de 20 à 35 ans, je veux dire, le Bitcoin, ça fait partie.
Mais c'est une poche qui reste extrêmement volatile dans son portefeuille et ça ne correspond pas à tous les types de clientèle, très clairement.
C'est une nouvelle infrastructure. Le sujet, une fois encore, c'est pas d'acheter
Bitcoin. Non, je comprends. Non, mais moi, c'est ma question. Je comprends que ce soit pas le sujet, mais enfin, c'est mon sujet.
En tant qu'investissement, effectivement, ce que je disais, c'est que je ne sais pas donner un prix. Par contre, il y a des choses comme l'Ethereum, il y a d'autres blockchains où là, c'est l'usage qui crée la valeur. Donc, il faut analyser toutes ces blockchains et se dire, celle-là, elle est intéressante, les gens vont l'utiliser. Et le token, donc l'élément qui est coté, dit si l'usage se développe, il faut acheter ça parce que fondamentalement, il y aura de l'usage et donc de la valeur. Donc, on peut faire une analyse fondamentale de plein de projets. Alors que le Bitcoin, c'est un produit structurellement financier aujourd'hui.
Emmanuel.
Alors, moi, je trouve justement que dans tous les produits, il y en a plein qui sont de l'arnaque, entre guillemets. Il y a sous un vernis crypto, etc. C'est en fait des boîtes qui lancent des produits exactement comme les autres, manipulables comme les autres, etc. Après, pour se raccrocher vraiment aux fondamentaux, moi, je pense qu'il y a deux tendances qui sont incontournables et qui sont inarrêtables. C'est quand même l'informatisation du monde, d'une façon ou d'une autre. Et moi, il me semble que la blockchain et les cryptos, ça procède de l'évolution continue vers un monde toujours plus informatisé. C'est une informatisation de la monnaie. Et puis l'autre tendance qui est très lourde, mais Sébastien l'a déjà parlé, qui me paraît incontournable, c'est la décentralisation. Donc informatisation, décentralisation, oui, fait que les infrastructures blockchain, le Bitcoin, qui est quand même différent, parce qu'on pourrait disserter pendant des heures pour expliquer pourquoi le Bitcoin, c'est quand même très différent aussi des autres cryptos. Moi, je pense que c'est quelque chose dont il faut absolument tenir compte, effectivement. Et en se moquant complètement en avoir, mais sans se demander est-ce que c'est parce que ça va valoir plus ou moins. Je pense que c'est pas ça le sujet, effectivement, je suis d'accord avec Sébastien.
Au lancement d'Internet, Bill Gates avait dit on a un problème parce que les gars ou les filles les plus intelligentes du monde, elles viennent plus chez Microsoft, elles vont chez Google, elles vont dans les boîtes d'Internet. Aujourd'hui, le sentiment que j'ai, tu parlais de l'X tout à l'heure, j'ai quand même le sentiment qu'il y a beaucoup de gens très intelligents qui se dirigent vers cette industrie aujourd'hui. Et ça, je pense que ça doit nous parler.
Léa ?
Ouais, j'allais faire un parallèle un peu mauvais parce que moi, j'y comprends rien au Bitcoin, mais quand je vois l'annonce extraordinaire de Christine Lagarde la semaine dernière des 20 milliards qu'il faut déployer pour digitaliser la monnaie, je me dis que la partie infrastructure, effectivement, est intéressante. Le reste, honnêtement, en tant qu'investissement, moi, j'y comprends rien. Mais vous voyez, l'Europe
on y comprend
des
rien, mais quand vous avez des clients ou vous avez des gens qui vous disent bah ouais, mais à force de me dire vous y comprenez rien, j'ai loupé le coche et j'aurais pu faire fois 100, fois 10. C'est quand même...
Pour boucler sur notre première partie de discussion qui était... quand même, il se passe quelque chose à cause de l'attitude des États-Unis et de Donald
Trump. Vous pensez que c'est un signe de fébrilité aussi?
Dans le système monétaire international. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette question-là. C'est-à-dire, est-ce qu'on est en train de changer de système monétaire international? Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre les plus grands bouleversements dans le système monétaire international depuis 1971 et depuis que Nixon nous dit il y a plus de convertibilité? Et donc, vous voyez, le télescopage de tous ces débats, fait que, du coup, l'alternative...
Le Bitcoin est né post-2008. Hein, ceux qui l'ont créé, on ne sait pas exactement qui, l'ont créé post-2008. Pour que ça n'arrive plus et qu'il y ait un système qui soit indépendant du système financier.
Qu'est-ce qui vous arrive, Emmanuel? Vous avez dit un truc super intéressant.
Bon, une fois, j'ai une bonne idée. Vous avez...
Ah ouais, ça, je trouvais ça génial. Allez, on passe tout de suite au marché. Ah là, je trouvais ça génial. Sur la semaine, il ne s'est pas passé grand-chose. Ça a un petit peu glissé, mais pas plus. On reste quand même très fortement en haut sur le CAC sur l'année, à 6,6%. Le S&P est quasiment à zéro. Sébastien, il n'est pas très négatif.
Le Nasdaq,
il est à moins 2%. L'Eurostock à 11%. Nikkei, moins 7%. Qu'est-ce qu'on fait sur les marchés? Sébastien Lalvé, est-ce qu'on achète ou on vend?
Bon, on réfléchit à son allocation et sa classe d'actifs.
Oui, mais sur les marchés, sur la bourse.
La bourse,
vous la voyez américaine, vous la voyez monter. La bourse européenne, vous la voyez monter.
Moi, je pense que les résultats d'entreprise sur le étaient meilleurs qu'attendus au premier trimestre,
oui.
avec beaucoup d'incertitudes du fait des tarifs.
Oui.
Je suis pas particulièrement confiant sur le deuxième trimestre, mais ce qui s'est passé, c'est que les attentes, les marchés, c'est toujours la différence entre les attentes et la réalité. La réalité. Depuis pas mal de mois, les anticipations n'ont pas arrêté de baisser et les gens ont rarement été aussi négatifs, en fait. Donc, le fait que les gens soient extrêmement négatifs est toujours...
Peut limiter la baisse.
Peut limiter la baisse.
Léa ?
Ah, c'est exactement le même constat. Une saison des résultats particulièrement bonne. Un point important quand même, je pense que tu as dû l'entendre aussi, pas tellement de stockage de la
Pour
part...
ceux qui vous écoutent, c'est Sébastien que vous tutoyez, hein, c'est pas moi. Non.
Ah, bien sûr, je me permets tout.
Non, c'est pour ça que je veux, bien sûr...
Oh là là.
Je veux remettre les pendules à l'heure.
Absolument. Non, ce qui est important, c'est que les entreprises, on avait peur d'avoir un peu un boost sur la croissance des chiffres d'affaires sur le premier trimestre, du fait justement des barrières douanières et donc d'un effet surstockage qui n'a pas tellement eu lieu. En revanche, la visibilité est atone. Il y a quand même des révisions des IPS, donc de la croissance future des résultats qui sont négatives globalement. Donc, un marché qui s'essouffle, moi, j'aurais tendance à prendre des bénéfices de manière globale, en particulier sur l'Europe.
Qu'est-ce qu'on dit chez PICTM ?
Question de temporalité, à court terme, effectivement, l'été sera certainement assez compliqué parce que finalement,
l'été sera chaud.
Tout à fait. C'est la dernière fenêtre d'opportunité pour Trump s'il souhaite vraiment bouger les choses, parce qu'après, ce sera compliqué avec les élections à mi-mandat qui vont intervenir. Il est en train de lever de l'argent, donc il faut aussi des bonnes nouvelles. En revanche, sur du moyen long terme, y compris sur la bourse américaine, quand on voit que c'était un début d'année très compliqué, on a eu des très bons résultats sur les entreprises tech. Vous avez aussi des changements, par exemple Google qui se présente beaucoup plus comme non plus un outil de recherche, mais une plateforme IA. Nvidia, on va voir les résultats prochainement, ça devrait être plutôt bon. Donc il y a des éléments de fondamentaux à moyen long terme, qui reste toujours positif.
Alors justement, on a parlé de la bourse, maintenant on va parler de l'allocation d'actifs dans cet environnement. Qu'est-ce que vous conseillez, Léa ? Vous conseillez, c'est quoi l'allocation idéale aujourd'hui pour quelqu'un qui veut avoir une sorte de gestion équilibrée ?
C'est très simple. On a baissé notre taux d'exposition action dans les fonds allocation d'actifs que j'ai. On est passé d'un peu plus de 35% à un peu moins, plutôt 25%. On a baissé d'une bonne dizaine de pourcents l'allocation action monde en plus, en prenant un peu plus sur l'Europe que sur les États-Unis, du fait des performances américaines. Oui, c'est un move. Il y a un mois, on est revenu au plus haut, en fait. Il faut pas l'oublier. Le rebond a été assez important, comme si de rien n'était. Et c'est un peu la théorie que je vous donnais tout à l'heure. C'est-à-dire que certes, les négociations font que l'ampleur du désastre sera moins grande, mais il y a quand même des éléments qui vont arriver. Sur la partie obligataire, très peu exposé quand même au high yield, pour les tensions.
High yield, c'est les
entreprises. Oui, merci.
À haut rendement.
Exactement. Et parce que quand même l'environnement économique, on va attendre d'avoir un peu plus de certitude sur cet atterrissage et sur le fait que.
Mais alors, justement, si on veut placer de l'argent dans la partie taux d'intérêt, on la place où ? Plutôt des fonds obligataires court terme, d'accord.
Oui, c'est ça qu'on.
Dette d'entreprise, mais moins risquée.
Ce qu'on appelle duration, donc effectivement, la longueur de la dette, on est plutôt sur la partie courte, oui.
Chez Montpensier Arbevel, à part les fonds actions, aujourd'hui, qu'est-ce que font les investisseurs ? Ils investissent dans quoi chez vous ?
Les émissions convertibles.
Ok.
Vu que les.
Expliquez en deux mots, parce que.
Vu que les taux, c'est un mix entre des actions et des obligations, et comme les taux ont remonté. Maintenant, elles émettent des coupons positifs aussi.
D'accord.
Donc, des coupons positifs.
Donc, on a un rendement et on a la possibilité de convertir son obligation si le cours de l'action...
Exactement. Donc, c'est un mix qui, aujourd'hui, est intéressant.
Donc, c'est ça, les grosses tendances. Il y a d'autres choses sur les fonds obligataires ? Vous continuez à collecter ou ça s'est calmé ?
On collecte beaucoup en fonds obligataires, notamment dans des fonds obligataires, entre guillemets, flexibles. Donc, qui sont capables au niveau global ou au niveau européen... d'aller travailler sur, comme disait Léa, sur la duration et d'adapter, entre guillemets, leur positionnement à ce qu'ils pensent des courbes de taux entre les États-Unis, l'Europe, l'Allemagne, la France, et de jouer là-dessus. Donc, c'est vraiment de la flexibilité au niveau des obligations et c'est des fonds qui, aujourd'hui, sont très populaires.
On passe tout de suite au top ou au flop de la semaine. Christopher Dembick, j'interrogerai Emmanuel en dernier parce qu'il n'a rien préparé. Christopher Dembick.
Ce sera le flop, de nouveau l'obligataire, mais du côté du Japon, vous avez toujours ces fantasmes sur la dette japonaise, tôt ou tard ça va finir par exploser, et on renoue avec ces fantasmes-là.
On rappelle quand même le taux d'endettement du Japon.
Oui, qui est, je crois, 250% du PIB, qui est effectivement énorme, mais qui est détenu par des investisseurs nationaux. Vous avez les taux longs, donc 30-40 ans, qui ont flambé ces derniers jours, vous avez aussi des émissions obligataires
quand
de la part du Japon.
Quand on dit flambé, c'est à combien
on est à des points hauts depuis des décennies, donc sur du 30-40 ans, et vous avez eu aussi des problèmes en termes émissions obligataires sur du 20 ans. Donc il y a ce sujet-là. En revanche, on est très loin du fantasme. La dette japonaise est un vrai sujet. Quand vous regardez dans le détail, c'est lié à quoi ? Vous avez des discussions, effectivement, par rapport aux élections législatives qui vont avoir lieu en juillet, donc une hausse de l'endettement, donc un peu de fébrilité, mais surtout la Banque du Japon qui a ralenti ses achats de bons du Trésor. Il faut rappeler qu'elle en détient d'obligations souveraines japonaises. Elle détient 46% du stock. Donc avec 46% du stock, c'est très dur d'imaginer que du jour au lendemain, on aura un problème de dette japonaise qui va exploser.
Léa, top ou flop ?
J'avais un flop sur la CAF et le rapport de la Cour des comptes et les 7 milliards qu'on a perdus l'année dernière. À peu près 20% de ce qu'on recherche en termes d'économie. Mais je vais faire mon top un peu contrariant sur Harvard, parce qu'en fait, il y a eu un gros bras de fer entre Trump et Harvard, hein, 2 milliards déjà de coupe exactement sur les budgets de recherche. Et puis là, finalement, l'annonce pour l'année scolaire prochaine, donc septembre 2025, la fin de la possibilité des étrangers de venir suivre les cours. Et je pense que ça a été un énorme mouvement aussi qu'on a observé depuis le début des années 2000, même plutôt renforcé depuis 2010, avec l'arrivée massive d'étudiants étrangers qui finalement viennent capter un certain...
Vous ne disiez pas étudiants étrangers tout à l'heure en antenne.
Qu'est-ce que j'ai dit ?
Non, non, je plaisante.
Oui, c'est facile. Non, en tout cas, c'est le terme employé, donc je le garde comme tel. Mais,
c'est enregistré. Hein,
oui, je sais bien. Et vous allez switcher après comme ça. Non, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'éducation, c'est quand même un élément important dans une économie. C'est quelque chose qui se constitue avec année après année et dont on fait bénéficier les États-Unis largement à l'extérieur, et je pense qu'aujourd'hui, cette logique protectionniste de Trump consiste à dire, maintenant, on garde le savoir chez nous.
Mais pourquoi c'est un top
Sébastien Lalvé, votre top ou votre flop ?
Pour moi, c'est fondamentalement un flop.
Mais bien sûr.
Pour une raison simple, la force des États-Unis, elle est sur principalement deux niveaux. Le soft power, et une capacité inégalée d'attirer les gens les plus intelligents du monde. Quand vous regardez l'élite, l'intelligentsia en Asie, au Moyen-Orient, elle est constituée d'une flopée d'anciens diplômés de Harvard qui se sont fait un réseau là-bas et qui, d'une façon ou d'une autre, sont américanisés et qui profitent de systèmes et qui font profiter les États-Unis de ce système.
Mais il y en a beaucoup qui restent aux États-Unis.
Et il y en a beaucoup qui restent.
Bien sûr.
Les États-Unis bénéficient de ce soft power comme le Gartner et comme d'autres. Et si par principe, parce que moi je pense qu'il fait ça uniquement, c'est plus une question de wokisme ou quoi que ce soit. Non. C'est juste flatter son électorat de dire. Il y a moins d'étrangers, il y a plus de gens pour vous, et c'est comme Merkel que vous adorez à une époque.
Tu adores toujours.
C'est des décisions.
J'ai sa photo d'elle nue dans ma chambre.
Contre tout. C'est une décision qui est faite pour flatter son électorat. Mais... pour flatter son électorat. Donc c'est une mauvaise décision pour le pays à long terme, pour des raisons électoralistes.
D'accord. C'est pas le job non plus d'une université de devenir un centre de propagande politique.
Dans le cas d'Harvard,
mettre en danger une partie de ses étudiants, si je peux me permettre quand même. Donc, qu'on leur tape sur la gueule, c'est quand même pas mal.
Ouais, et puis
on les interdit tous.
Les grands dirigeants et les chercheurs qui vont aux États-Unis ne viennent pas des universités américaines. Hein. Ils viennent des universités européennes pour une grande partie. Ça, il faut regarder les stats, c'est important. Les grands dirigeants américains viennent des grandes universités américaines. Pour le reste, c'est pas du tout si évident.
Allez, on n'a pas le temps. Emmanuel Le Chip, top ou flop ? Vous avez eu le temps de réfléchir ou on passe à autre chose ?
Je suis sidéré par cette discussion. Je ne comprends pas comment, en affaiblissant une grande université de renommée mondiale, ça profite à votre pays. Mais bon, c'est pas grave. Non, moi, j'ai un super top. Alors là, est-ce que, depuis combien de temps vous n'aviez pas entendu une idée nouvelle sur les retraites ? Mais une vraie idée originale. Ça fait quand même très longtemps.
Ouais.
Et tout le monde nous dit, la capitalisation, il faut la rajouter à la répartition. D'accord. Sachant qu'il y a un problème avec tout ça, c'est que vous ne pouvez pas demander aux actifs de cotiser deux fois. C'est-à-dire la répartition pour les retraités d'aujourd'hui et leur cotisation pour la retraite demain. Eh bien, les Allemands, ils ont une idée géniale qui a été présentée.
Allez, vous nous chauffez, là.
Eh bien, ça consiste à vouloir mettre 10 euros par mois sur le compte de chaque petit Allemand de plus de 6 ans jusqu'à ses 18 ans pour préparer sa retraite. Et donc... 10 euros par mois, donc ça veut dire qu'à vos 18 ans, vous avez quelques milliers d'euros. Là, vous avez deux possibilités. Soit vous continuez pendant toute
votre vie. Mais qui les met ?
Ah, bah, c'est l'État qui les met.
Ah, l'État les met ?
C'est l'État qui les met. Mais vous savez combien ça lui coûte à l'État allemand d'équilibrer le système de retraite par
répartition
chaque année ? Plus de 90 milliards
d'euros. Donc il met 10 euros.
Merci, mais attendez, moi, ça me coûte moins cher. Les jeunes à 18 ans, ils ont le choix. Soit ils ont leur petit capital qu'ils font fructifier, qui leur fera 40 000 euros au moment de la retraite. Soit ils continuent à cotiser tout au long de leur
vie. Mais ils peuvent pas le toucher à 18 ans.
Ah non, ils peuvent pas le toucher.
Pour acheter du,
ah non, jamais, jamais.
Pour acheter
non, non.
Du shit,
non. C'est fait pour faire uniquement la retraite. Et je trouve que c'est une bonne idée. Et que, c'est pas si souvent qu'on a des idées nouvelles pour sortir du bazar de...
Un PER enfant.
Exactement. Un PER enfant.
Très bonne idée.
C'est exactement ça.
Allez, je vais lancer ça. Allez, on passe tout de suite au top 3 de la semaine. Vous allez voir une entrée fracassante de Sébastien Lallevé. Bravo, Sébastien.
Ah bon ?
Bah ouais. Vous êtes numéro 3 derrière Eric Blaine, 21,4%, William Egan, 20,9%, 18,8%. Hors antenne, vous m'avez dit que votre fonds faisait à peu près une de vos gestions. Ouais. Faisait 20% de hausse, donc on y est, hein, bravo.
Avec mes 15 lignes, bah c'est bien.
Ouais, mais ça n'a aucun impact, hein. Il faudrait que je vous explique un jour. Est-ce que vous pouvez nous afficher maintenant avec une musique qui fait très peur le portefeuille de Sébastien Lallevé qui s'affiche. Donc on a du, vous nous dites ce qu'on fait. Hein.
Ouais.
On a du Selectis.
On garde.
On a du Excel. Vous avez fait un carton absolu sur Excel. Vous voulez nous en parler deux secondes parce que c'est une valeur que vous avez tenue pendant plusieurs années. Je dois vous le dire, je dois vous féliciter pour ça. Vous avez
c'est
dit.
EXAIL.
Vous avez dit faut se renforcer là-dessus. C'était l'ancien groupe Gorgé. C'est une boîte aujourd'hui qui fait. Bah, je vous laisse parler. Vous la connaissez mieux.
Il y a un gros biais défense qui fait c'est qu'aujourd'hui ça a été popularisé par ça. Mais c'est extrêmement bien géré par Raphaël Gorgé avec une vision très claire, un industriel, du M&A de bonne aloi, de la bonne stratégie, une bonne communication.
Et une succession maintenant de contrats massifs hein, de marines du monde entier.
Oui.
Bravo en tout cas, parce que
les bases étaient fortes, il suffisait d'attendre. Bon, ça a été
mais ça
long,
fait partie de votre style de gestion quand même, hein,
oui.
D'avoir une gestion de conviction. Reward Media.
On garde.
Technip.
Technip Énergie, on garde.
SMCP.
On garde.
Vallourec.
On garde.
Séché.
On garde.
Nexans.
On garde.
N'allez pas vous plaindre d'avoir trop de lignes. Hein. Sopra Steria.
On garde.
ID Logistics.
Magnifique, on garde.
Medincel.
On garde aussi.
Delivery Hero.
Allez, on coupe.
Ah, ok. Pourquoi ?
Bah parce que j'ai trop de lignes, donc là...
Ok. Téléperformance.
On garde.
Zalando.
On garde.
Qu'est-ce qu'on achète ?
On achète Infineon. Donc Infineon, c'est un géant allemand des semi-conducteurs qui fait 45 milliards de capitalisation boursière. Donc on est dans une grosse société. Et la raison pour laquelle on l'achète aujourd'hui, c'est qu'après plusieurs trimestres où on continue à creuser pour atteindre le point bas, là on pense qu'on l'a atteint.
Et parce donc, que le cours a beaucoup baissé, c'est
non,
ça ?
Non, pas le cours de bourse, sur le business en
okay.
fait. Ils étaient très liés à l'automobile. Là, ils ont un nouveau client qui s'appelle BYD, qui est un peu gros dans l'automobile. Entre autres, ils sont aussi dans les data centers. Ils faisaient zéro il y a 3 ans. Ils attendaient 1 milliard dans 3-4 ans. Une boîte qui fait 15 milliards de chiffre d'affaires. Donc, ça représentera beaucoup d'argent. Et quand vous regardez les croissances attendues, on a plus de 10% par an. Et la croissance des EPS, on a plus de 25% par an.
EPS, vous rappelez ça?
De résultats nets par action.
Okay.
Donc, ça nous paraît un bon timing pour se renforcer sur Infineon.
Je voudrais pouvoir faire peur à Léa Dunant, s'il vous plaît. On va afficher son portefeuille tout de suite. Vous avez du ID Logistics.
Oui, ben on garde, effectivement.
Novo Nordisk.
Ce serait compliqué hein, de vendre un couteau qui tombe. C'est une grille de valorisation. Donc,
C'est quand même incroyable, cette histoire, parce que vous êtes sur un produit, donc le Ozempic, c'est quand même le carton absolu. Vous êtes le patron d'une boîte qui a le carton absolu, qui modifie. C'est un phénomène de société, c'est même pas un produit. Et le mec se fait virer parce que il y a un concurrent qui
ils
va
l'ont fait
avoir
6 ans pour les mêmes raisons quasiment.
Moi ça me fascine parce que
mais c'est Trump a dit que ça marchait pas. Hein.
Bah il a dû l'essayer. Knorr Bremse.
Knorr on garde hein, ça.
ASML.
ASML on garde.
Vous m'avez pas dit sur Novo Nordisk on garde ou pas?
Ah, on va garder. On okay. va garder parce que
j'ai Klépierre.
Encore. Klépierre on garde.
Nibe
on garde.
Relix.
Relix on va alléger. Ça a très bien fait depuis le début de l'année, c'est l'éducation justement, ça bénéficie aussi de l'intelligence artificielle d'ailleurs, mais pour l'instant on peut
vendre parce qu'on a plus besoin d'éducation
voilà,
maintenant.
Voilà. Okay, voilà.
Surtout pas pour les
d'ailleurs, ils ont des contrats avec Harvard.
Arcadis.
Vous viens de m'y faire penser. Arcadis, on va vendre aussi là pour le coup, c'est vraiment très compliqué depuis le début de l'année. Pourtant, c'est de la gestion des bâtiments. En gros, c'est de la gestion des bâtiments à peu près à tout point de vue, hein, que ce soit les réseaux électriques.
Donc on balance. Vertive.
Alors Vertive, on vend, ça fait une super perf et ça.
Air Liquide.
Et on garde pour l'instant. Meyersdorf, on garde.
Connaît
aussi.
GTT
aussi.
Saint-Gobain.
Qu'est-ce
qu'on achète ?
On achète deux choses. Donc Infineon pour toutes les raisons qui ont été
vous
évoquées.
Vous avez copié dans le couloir ou ?
Bah ouais. Alors ce que vous savez pas, c'est que je l'ai arbitré il y a déjà un moment pour une autre société qui s'appelle STM, qui est un peu son comparable. Et effectivement, tout ce qui a été dit, je rejoins. C'est-à-dire que là, il y a un momentum sur cette société.
Franchement, quand vous êtes les deux là-dessus, on va y aller. Hein. si vous êtes les deux d'accord.
Et je peux rajouter un élément ?
Ouais, bah vous pouvez tout.
C'est une société allemande, tout comme la deuxième d'ailleurs. Donc, avec ce momentum positif sur le marché allemand du fait du bazooka allemand, ça rajoute en plus un petit plus, qui n'est qu'un momentum de marché. Vonovia, du coup, je vais en parler. Vonovia, c'est le gros mastodonte de l'immobilier allemand. On avait rentré du Klépierre, ça a bien fait d'ailleurs, et on a une forte conviction en fait sur le marché de l'immobilier de manière générale. D'abord pour ses niveaux de valorisation, parce que bon, bah, le marché
ils sont très bas.
Oui, alors ça se valorise pas comme les sociétés, donc je vais pas l'expliquer maintenant. Mais par contre, on sait que le marché immobilier est à mal depuis 3-4 ans.
Mais le cours est bas. Vonovia ou non?
Non, ça a déjà bien commencé à revenir, mais il y a du potentiel. D'abord parce que c'est en Allemagne, c'est l'immobilier résidentiel et pas que. Et surtout, en fait, c'est des sociétés avec des tendances, enfin, dont le catalyse, c'est les taux. C'est les taux, les longs en particulier. D'accord. On avait beaucoup de producteurs d'énergie électrique. On passe sur l'immobilier qui ont très bien fait, ce qu'on appelle les utilities. Depuis le début de l'année, elles fonctionnent bien en Europe. Eh ben, on les renverse vers l'immobilier qui a plus de potentiel aujourd'hui et qui va certainement bénéficier de la baisse des taux en Europe.
Elle parle bien, hein?
Très bien.
Merci de nous avoir suivis. Merci à tous nos invités de marque. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous dire que malgré le fait qu'il n'y ait pas Emmanuel Le Chypre, elle sera exceptionnelle. Vous pouvez me poser des questions, oui, d'économie, non, je ne plaisante pas, ou de placement sur marque@bfmbusiness.com.
Et plutôt.
Non, économie aussi.
Oh, plutôt
non, économie, j'ai l'intelligence artificielle. Et je vous répondrai. Surtout, n'oubliez pas qu'il est nettement supérieur à la vôtre. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter, nous voir, nous réécouter en replay sur toutes les plateformes pour combattre de nouveaux records en 2025.